Radio Kapi.
À la présentation du journal, Billy Van Lutumba. Nous ouvrons ce journal avec ses descriptions, en tout cas très peu reluisantes, sinon désastreuses, que présente Judith Suminwa, première ministre congolaise devant les membres du Conseil des droits humains à Genève. Il faut des sanctions dissuasives pour permettre de restaurer l'ordre, mais aussi de protéger les populations, recommande-t-elle. Attendu depuis janvier dernier, le verdict dans le procès d'Iforage est tombé ce lundi 24 février. L'ancien ministre François Robota écope de 3 ans de prison pour conflit d'intérêts, alors que l'opérateur économique Mike Kasenga est lavé de toute poursuite. Détail sous peu. Médecin directeur du centre de santé de référence de Boulé dans le territoire des Djougou, Emelo Ndjouga, et c'est lui que nous recevons comme invité de ce journal. Il parle des difficultés pour la prise en charge des vulnérables victimes des atrocités des groupes armés dans la zone. Tout de suite, nous vous déroulons les autres aspects et contours de l'actualité congolaise dans diverses provinces de la RDC. Bienvenue et excellentes conditions d'écoute à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Avant d'aller plus loin avec ce journal, sachez tout d'abord qu'au sujet du conflit dans l'est de la RDC, la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaja Kallax, annonce une série de mesures en réaction à l'implication des troupes rwandaises aux côtés des rebelles du M23 dans l'est de la RDC. Suspension des consultations en matière de défense avec Kigali, possibilité d'appliquer des sanctions en fonction de l'évolution de la situation sur le terrain, appel au retrait des forces rwandaises et réexamen du protocole d'accord sur les matières premières critiques. Cette annonce de l'Union européenne accentue la pression internationale sur le Rwanda. La semaine dernière déjà, le Conseil de sécurité de l'ONU a pointé du doigt Kigali pour son soutien au groupe rebelle M23 et a exigé le retrait immédiat de ses troupes du territoire congolais. Premier titre de ce journal. La première ministre congolaise a déclaré que la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo a atteint des proportions alarmantes. Judith Suminwa l'a dit ce lundi à la 58e session du Conseil des droits humains à Genève. Nous sommes en Suisse. Pour cela, la RDC continue à exiger des sanctions dissuasives pour permettre de restaurer l'ordre, mais aussi de protéger les populations vivant à Goma, Bukavu et les localités sous occupation, ajoutait Judith Suminwa. On l'écoute dans cet extrait proposé par Alain Hong Mushinge.
Selon les chiffres du ministère de la Santé, depuis le mois de janvier 2025, le conflit a provoqué entre autres la mort de plus de 7000 compatriotes, dont plus de 2500 corps enterrés sans être identifiés et plus de 1500 corps traînent encore dans les morgues. Plus de 215 cas de choléra identifiés et plusieurs cas de Mpox non pris en charge avec risque d'expansion. La destruction de plus de 90 sites d'accueil des déplacés internes, des attaques contre les hôpitaux et entrepôts humanitaires. Plus de 450 000 personnes, selon l'ONU, sont sans abri, nourriture et eau. Plus de 27 millions sont en besoin d'assistance humanitaire et plus de 2,8 millions de déplacés internes en République démocratique du Congo et particulièrement à l'Est. Il m'est impossible de vous décrire les cris et les larmes de millions de victimes de ce conflit. Femmes, filles violées, enfants en relais de force, déplacés et orphelins. En outre, les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes, les artistes, témoins de cette tragédie à l'Est n'ont pas le droit de la raconter.
Pour sa part, le secrétaire général des Nations Unies affirme qu'il est temps de faire taire les armes. L'heure est à la diplomatie et au dialogue en République démocratique du Congo. Antonio Guterres s'est ainsi exprimé à l'ouverture de la 58e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui se tient à Genève du 24 février au 4 avril. Plus de détails avec Alain Hung.
En République démocratique du Congo, nous sommes témoins d'un tourbillon mortel de violence et d'atroces violations des droits humains, amplifiées par la récente offensive du M23 soutenue par les forces de défense rwandaises. Plus les villes tombent, plus le risque d'une guerre régionale augmente, a alerté Antonio Guterres. Selon lui, le récent sommet conjoint qui s'est tenu en Tanzanie a ouvert la voie en renouvelant l'appel à un cessez-le-feu immédiat. Il rappelle que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC doivent être respectées et que le peuple congolais mérite la paix. L'ambassadeur Jörg Lober, représentant permanent de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies à Genève et président de la session, a regretté la commission de graves violations des droits humains, citant en exemple la situation dans l'est de la RDC. Face au constat alarmant des atrocités qui y sont commises et rapportées, il a invité le Conseil à veiller à ce que les mots se traduisent en action, non sans s'interroger sur l'efficacité des mesures prises jusqu'alors.
Plusieurs centaines de policiers en fonction au Sud Kivu ont été conduits à Goma par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda qui occupe actuellement la ville de Bukavu. Nous l'avons dit dans nos précédentes éditions. Ces policiers ont voyagé à bord du bateau Emmanuel II affrété puis escorté par le M23. Lors de leur accostage au port de Goma hier dimanche, ils ont embarqué dans des camions en direction de Rumangabo pour une formation idéologique, affirment plusieurs sources. En réaction, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Meshabani, considère qu'il s'agit d'une pratique d'endoctrinement idéologique qui est contraire aux conventions de Genève. On écoute le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Jacques Meshabani au micro de Blaise Chindani.
C'est une très grave violation des conventions de Genève relatives au traitement des prisonniers de grève. Voilà qu'un groupe de terroristes et un pays agresseur se permet de séquestrer, de kidnapper des citoyens, des hommes qui sont sous les drapeaux en voulant les amener dans un camp de concentration pour les endoctriner idéologiquement en espérant pouvoir les retourner contre leur nation. C'est extrêmement grave. Nous sommes convaincus que toutes les pressions qui sont faites fera en sorte à ce que cette initiative soit un échec total.
Nous allons maintenant parler de la situation dans le Nord Kivu où les équipes du programme alimentaire mondial PAM et ses partenaires ont repris partiellement la semaine dernière l'assistance alimentaire dans certaines parties de la ville de Goma. Cette assistance consiste à fournir des intrants nutritionnels essentiels pour le traitement de la malnutrition aiguë modérée chez les enfants âgés de 6 à 59 mois. Un reportage de Denis Loukesso rendu par Martial Papimoukeba.
La flambée des prix des denrées alimentaires de base rend la situation encore plus difficile pour les familles, s'inquiète les PAM. L'urgence d'intervenir face à la montée de la faim et de la malnutrition est vitale. Les enfants et les mères ne peuvent être négligés, dit Peter Moussoko, directeur pays du PAM en RDC. Par exemple, les prix de la farine de maïs a augmenté de près de 67%, tandis que le sel a augmenté d'environ 43% et l'huile végétale a augmenté jusqu'à 47%, exposant les familles à l'insécurité alimentaire. Les PAM disent se mobiliser pour lutter contre la malnutrition. Plus, nous sommes incapables de fournir de la nourriture et une assistance d'urgence aux familles touchées par les conflits. Plus grands et plus pressants sont leurs besoins, déclare Peter Moussoko. Rappelons que plusieurs dépôts de 7 agences onusiennes ont été l'objet de pillages lors de la prise de Goma en janvier dernier.
Parlons à présent de l'actualité dans la province de l'Ituri. En janvier, environ 1400 cas d'infection respiratoire aiguë ont été enregistrés parmi les 2800 malades au centre santé de référence de Boulé dans le territoire de Djougou. La majorité des patients sont des enfants déplacés par la guerre. Le médecin directeur de cette structure, Dr Aimé Londunga, attribue cette morbidité alarmante aux conditions de vie difficiles de ces sinistrés qui manquent de moyens de protection contre les intempéries. Il ajoute que les cas de malnutrition, de diarrhée et de paludisme sont également élevés. Bien que ces personnes soient prises en charge grâce au soutien des partenaires, ce soutien ne suffit pas à répondre aux besoins sanitaires de ces milliers de déplacés. Il s'exprime ici au micro d'Isaac Remoyope.
Ça, c'est notre tableau de bord. Ça, c'est pour le mois de janvier. Voyez, par exemple, on a dit nouvelle consultation. On est en janvier, nous sommes à 2863. Ça, c'est le paludisme, c'est là occupé 112 cas. Et avec les GIRA, ça, c'est sur les infections respiratoires. 1450 avec la diarrhée chez les enfants, des 222 cas de diarrhée. En plus de ça, il y a aussi la malnutrition. Plusieurs facteurs peuvent entrer à gérer. Les déplacés vivent dans des sites et la promiscuité comme le soleil, ils sont exposés à toutes catégories de maladies. Il y a aussi l'accessibilité à l'eau potable. Ça pose aussi un problème. Il y a aussi l'accessibilité aussi à la nourriture, parce que trouver à manger, c'est pas facile aussi pour eux. Alors, ce sont des facteurs qui exposent seulement le fait. Parfois, ils dorment aussi à la belle étoile, peuvent être piqués par des moustiques à tout moment. Ce qui fait qu'il y a toujours cette maladie, la malaria et les infections respiratoires avec les contextes aussi du milieu, les intempéries. Si vous voyez ici, par exemple, le soir, vous allez voir constater le mouvement de la population. Le soir, ils quittent les sites pour venir dormir dans les centres ici. Le plein de savoir, ils quittent tous de là, ils viennent passer une nuit ici. C'est comme ça que les enfants, vous allez voir les enfants circuler, ils sont exposés aussi aux maladies respiratoires dans le froid.
Pour justement, sachez que ce nombre pourrait doubler pendant la période des pluies qui commence en mars si des mesures nécessaires ne sont pas prises, alerte les sources médicales. Puisque nous sommes en Ituri, la situation sécuritaire se détériore au quotidien dans le territoire de Djougou, marqué par l'escalade des violences. Un convoi des FRDC déployé pour contenir les menaces des groupes armés a essuyé des tirs dimanche de la milice Kodeko vers le village de Masumbuko. Selon des sources locales, un militaire est mort et deux autres blessés. Des échanges de tirs ont été également signalés le même jour entre les milices Codeco et Zaïre vers Largou. Conséquence, de nombreux habitants dans la zone ont trouvé refuge au site des Roe et de Djangui. Depuis le meurtre, il y a environ 2 semaines, de 7 personnes à Ar et de 52 autres dans le groupement de Djaïba, les attaques et tentatives d'incursion des groupes armés se sont multipliées dans plusieurs localités du territoire des Djougou. De la justice dans ce journal. Ainsi que je vous l'ai dit dans le sommaire, acquittement pur et simple de l'opérateur économique Mike Kasenga ce lundi. Condamnation de François Roubota, ancien ministre du Développement Rural, à 3 ans de prison pour conflit d'intérêts. Le verdict de la Cour de cassation vient de tomber dans le procès de forage d'eau, débuté le 11 novembre 2024 et dont le verdict était attendu depuis le 22 janvier dernier. Représentant du consortium Sever Construct SARL, Mike Kasenga n'a pas été reconnu coupable d'un quelconque détournement d'argent. Il a été donc renvoyé de fin de poursuite, car n'étant pas un agent de l'État selon l'arrêt de la Cour. Explication du motif de cet acquittement avec son avocat, ancien bâtonnier de la province du Kwilu, Laurent Mukalingi, joint par Jeff Ngoy.
Je venais de lire, non pas la motivation, mais j'ai lu au moins le dispositif. La Cour de cassation, la haute cour, disons, a disqualifié l'infraction de détournement à charge de mon client en infraction d'abus de confiance. Ce qui fait que, constatant les éléments de l'infraction d'abus de confiance qui n'étaient pas réunis, la Cour a dit le bon droit en acquittant mon client, pour qui je suis en train de faire les formalités d'usage pour aller les chercher au centre de rééducation de Makala que vous connaissez très bien, c'est-à-dire la prison de Makala. Voilà.
Avant de passer à la page internationale de ce journal, sachez que dès ce mardi 25 février, ici à Kinshasa, la circulation redevient normale sur les artères où le sens unique avait été instauré depuis octobre dernier. C'est ce qui ressort d'une mesure de suspension de cette décision par le ministre de l'Intérieur. C'est notamment le cas des avenues Tourisme, Ngouma, Poids Lourd. Si beaucoup saluent cette suspension, quelques-uns auraient préféré que le sens unique perdure. Moudoumbi Benjamin pour le reportage.
Pour plusieurs Kinoises et Kinois, cette décision de suspendre les sens uniques est louable. D'après eux, la circulation alternée était à la base des embouteillages.
J'ai mal vécu cette période de sens unique et c'était très difficile. Et si tu es dans le bus, tu dois passer plus ou moins 3 heures du temps dans l'embouteillage.
D'autres estiment que les sens uniques a impacté négativement leur vie avec la majoration du prix des transports d'un côté et la quasi-absence remarquable de taxi-bus dans les arrêts habituels.
Le coût du transport chaque jour m'envoisinait dans les 8000 francs. Mais aujourd'hui, on peut aller même 15, voire même 20 000 francs aller-retour.
Certains, notamment certains chauffeurs et propriétaires de véhicules personnels, regrettent l'essence unique qui, selon eux, leur facilitait la tâche.
Pour les usagers avec des véhicules personnels, c'était vraiment une très bonne mesure parce que la circulation tôt le matin, ça roulait très bien. Les après-midi, ça roulait aussi très bien. C'était juste un tout petit peu compliqué vers 10 heures lorsque la circulation revenait à la normale. C'est là que ça bloquait.
Ce retour aux mesures d'avant vise à améliorer la mobilité urbaine à Kinshasa. Les autorités espèrent que ces réajustements contribueront ainsi à limiter les embouteillages auxquels la population fait face au quotidien, en attendant des solutions durables.
Actualité internationale.
Le ministre égyptien des Affaires étrangères Badar Abdelati a rencontré son homologue soudanais Ali Youssef El-Sherif dimanche au Caire pour des discussions bilatérales centrées sur la situation au Soudan. Cette rencontre survient dans un contexte particulièrement tendu. Les forces paramilitaires soudanaises de soutien rapide RSF ont récemment signé une charte établissant plutôt un gouvernement parallèle malgré l'opposition des autorités soudanaises et égyptiennes. Le ministre soudanais a déclaré que son pays ne tolérerait jamais la reconnaissance internationale de ce gouvernement alternatif. Et puis, sachez que le pape François, hospitalisé depuis un mois pour des complications liées à une pneumonie et à une infection pulmonaire complexe, demeure dans un état critique. Âgé de 88 ans, il continue de lutter contre des problèmes de santé sérieux, parmi lesquels des signes précoces d'insuffisance rénale. Bien que sa situation suscite des inquiétudes au sein de l'Église catholique et du monde entier, le Vatican a partagé des informations rassurantes concernant son état général. Dans une déclaration officielle, les médecins ont confirmé que bien que le pape présente des symptômes d'insuffisance rénale, cette condition est sous contrôle.
L'invité.
En Ituri, le centre de santé de référence de Boulé dans le territoire des Djougou est débordé des malades composés essentiellement des déplacés qui ont fui les récentes atrocités des groupes armés. Et pourtant, les ressources disponibles sont très limitées pour répondre aux besoins des patients malgré le soutien de certains partenaires dans l'UNICEF. Comment se fait la prise en charge de ces personnes vulnérables? Le médecin directeur de cette structure sanitaire, Emelo Djunga, s'entretient avec Isaac Moyopé qui revient de Djougou. Il est notre invité.
Bonjour docteur.
Oui, bonjour Isaac.
Avec l'afflux des déplacés, il y a une forte demande de votre service. Est-ce que vous arrivez à répondre ou à satisfaire aux besoins du monde?
Mais ça a été sollicité parce que c'est l'unique centre santé de référence. C'est l'unique là où on offre quand même un paquet, laissé sous forme de paquet complémentaire d'activités au sein du milieu. C'est comme ça qu'on a constaté qu'il y a eu beaucoup de déplacements. La population de Djaïba s'est déplacée ici suite aux études de Fatak. Mais c'est pas seulement Djaïba d'habitude, il y a beaucoup de déplacés ici. Par rapport à la facatation, nous avons constaté une augmentation légère d'environ 35% par jour. Pas quand même en dessous des 100, c'était 100, 120, entre 100 et 120 souvent. Mais actuellement, on arrive parfois à 160, à 170.
Généralement, quelles sont les maladies qui sont les plus fréquentes ici?
Bon, par rapport à la morbidité, nous avons les maladies courantes que nous sommes en train de soigner. Ce sont exactement les maladies ciblées par les partenaires ici. Ce sont les diarrhées chez les enfants avec déshydratation, et la malaria, donc le paludisme. En plus de ça, il y a aussi la malnutrition. Chez les enfants, il y a les infections respiratoires.
Ça, c'est notre tableau de bord. Ça, c'est pour le mois de janvier. Ouais, par exemple, on a dit nouvelle consultation. Ça, c'est nouveau cas consultation. On est en janvier, nous sommes à 2863. Ça, c'est le paludisme, mais celle-là a occupé 112 cas. Ça, c'est sur les infections respiratoires aiguës. Exactement, 1450 avec la diarrhée chez les enfants, avec 222 cas de diarrhée. Ça, c'est sur les cas bénins qu'on a soignés seulement au niveau de sa santé. Parce que maintenant, les cas qu'on a envoyés, que ça a été envoyé avec les complications de maladies, de malaria grave, de paludisme grave, des infections respiratoires grave, de pneumonie grave.
C'est dit à quoi? De mauvaises conditions, peut-être des déplacés qui passent la nuit à la belle étoile, ou bien dans des conditions inhumaines.
Plusieurs facteurs peuvent entrer à agir. Les déplacés vivent dans des sites et la promiscuité comme le soleil, ils sont exposés à toutes catégories de maladies. Il y a aussi l'accessibilité à l'eau potable, ça pose aussi un problème. Et il y a aussi l'accessibilité aussi à la nourriture, parce que trouver à manger, c'est pas facile aussi pour eux. Alors, ce sont des facteurs qui exposent seulement le fait. Parfois, ils dorment aussi à la belle étoile, peuvent être piqués par des moustiques à tout moment, ce qui fait qu'il y a toujours cette maladie, la malaria et les infections respiratoires avec les contextes aussi du milieu, les intempéries. Si vous voyez ici, par exemple, les soirs, vous allez voir constater le mouvement de la population. Le soir, ils quittent les sites pour venir dormir dans les centres ici. Peut-être, d'ailleurs, de plein de savoir, ils quittent tous de là, ils viennent passer une nuit ici. Les soirs et le matin, vous allez voir le mouvement encore, ils rentrent là-bas parce qu'ils doivent aller se chercher à manger dans leurs champs. Ils ont aussi peur parce qu'ils vont faire très vite pour ne pas tomber. Peut-être, il y a des ennemis là-bas quelque part qui peuvent vouloir faire du mal. Après, ça leur rentre. C'est comme ça que les enfants. Vous allez voir les enfants circuler, ils sont exposés aussi aux maladies respiratoires.
Par rapport au personnel, par rapport au service, est-ce que vous arrivez à répondre à tous ces besoins?
Bon, par rapport au personnel, il y a toujours des défis, parce qu'on constate dès qu'il y a d'abord une augmentation massive de la population et une augmentation de la fréquentation, on a toujours besoin d'une grande équipe. Le nombre de l'équipe reste le même, mais c'est moi que le nombre maintenant de malades, l'équipe est tellement sollicitée que l'équipe travaille d'arrache-pied. Et avec les médicaments aussi, parce qu'on est obligé d'abord de se débrouiller avec les médicaments de bord, bien sûr qu'il y a beaucoup de ruptures en médicaments pour le moment, on a des difficultés. On est toujours en train de solliciter. Bon, tant qu'on va recevoir peut-être une aide, ça va aussi, ça sera aussi de bienvenue pour nous aider.
Mais comment vous faites, par exemple, pour les personnes vulnérables? Est-ce qu'elles reçoivent les soins gratuitement? Par exemple, les déplacés, comment vous arrivez à satisfaire à ce groupe de patients?
Bon, par rapport aux déplacés, d'une façon générale, nous travaillons avec les partenaires qui obtenaient la gratuité des soins de santé pour tous. Au niveau du paquet minimum d'activité, mais pour le cas de référencement grave, on apprenait la gratuité des soins pour les complications obstétricales chez les femmes enceintes et aussi les enfants de 0 à 5 ans. Bon, pour les autres cas, pour la prise en charge sous forme de paquet minimum d'activité, là, c'est la gratuité des soins pour tous, sans catégorie. C'est ce qui fait que nous puissions aussi pallier tant soit peu besoin de la population. Parce que le partenaire a ciblé certaines maladies. Pour le cas du paquet minimum d'activité, le partenaire a pris, en tout cas, sa catégorie, toutes les maladies confondues. Et la prise en charge est globale. Même pour le paquet complémentaire d'activité, le partenaire a eu à la, quelle que soit la complication, jusqu'à même aller à une césarienne. En plus, là, chez les enfants de 0 à 5 ans, la malaria, les maladies respiratoires, là, d'une simple rhinite jusqu'à pneumonie sévère, et aussi la prise de la malnutrition chez les enfants, les diarrhées, le vomissement chez les enfants avec accompagnement de déshydratation, les méningites, c'est ça, et les transfusions sanguines, c'est ça, là, les maladies qu'ils ont prises. En dehors ça, il y a les autres catégories de malades, telles que, par exemple, les malades fracturés, les blessés de guerre, bon, on est en train de le prendre en charge comme ça. On ne sait pas, par exemple, bon, ils sont en train de consommer des médicaments, on ne sait pas, comme ils sont aussi, bon, des vulnérables, on ne sait pas comment on va leur demander de l'argent.
ça pose des problèmes, on est obligé de les soigner. Donc ils sont déjà là, ils consomment des médicaments et on a encore ces difficultés.
Docteur Emile Odjunga, je rappelle que vous êtes le médecin directeur des centres de santé de référence de Boulé. Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Voilà, fidèles auditeurs à Kinshasa, il est 18h20 et c'est par là que nous mettons un terme à cette édition de journal sur Radio Okapi, préparée par l'ensemble de toute la rédaction, et Billy Valotumba vous l'a présenté.